Bonjour, vous êtes sur Radio Galère, Marseille 88.4. Alors aujourd'hui, nous avons en notre présence Martine. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Martine ?
Bonjour, donc je suis Martine Dupuis, secrétaire départementale du SNUDI Force Ouvrière, qui est le syndicat du premier degré, des enseignants du premier degré.
Et aujourd'hui aussi encore, je fais l'interview en présence de Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Iter et bonjour à notre invité.
Aujourd'hui, nous allons donc traiter de l'éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale est en train d'élaborer des réformes. Est-ce que Martine, vous pouvez nous expliquer les différents points abordés dans ces réformes de manière à avoir un bilan rapide ?
Alors c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement il y a une avalanche de ce que nous appelons des contre-réformes, parce que par définition une réforme améliore, et là nous estimons de notre point de vue que c'est une dégradation du service public d'enseignement. Et je pense qu'on peut partir de ce qu'on appelle le fameux projet, enfin qui n'est plus un projet, donc de la réforme d'Arcos qui met en place les 108 heures annualisées. Donc pour le public, ça a été un petit peu la semaine des 4 jours, ce qui est une réalité pour un certain nombre d'enfants, mais ce n'est pas du tout le cas pour les enseignants, et qui, de notre point de vue, c'est le cheval de Troie de la destruction de notre statut et par là même donc de la détérioration du service public d'enseignement.
Est-ce qu'on peut dire que cette réforme apporte d'une certaine façon une amélioration ? Et si c'est le cas, en quoi est-ce que ça apporte une amélioration ? Et au contraire, si ça apporte une régression, en quoi est-ce que au niveau de l'enseignement de l'école publique, de l'école de la République, il y a une régression ?
Alors, du point de vue donc du SNUDI Force Ouvrière, ce n'est en aucun cas une amélioration. Pour parler de l'école, nous parlerons, je pense, quand même du statut des enseignants ensuite, parce qu'on pense que c'est vraiment le moyen de le détruire. Mais si on parle de l'école, puisque ce que le public peut entendre, c'est qu'il va être question de mettre en place un certain nombre d'heures pour prendre en charge les enfants en difficulté. Et je pense que je peux dire que c'est une véritable imposture, parce que donc on assiste depuis quelques années à la mise en place d'un certain nombre de contre-réformes pour soi-disant prendre en charge les enfants en difficulté, que ce soit les PPRE, les projets personnels de réussite de l'élève, que ce soit la loi Monchamp, dont on pourra parler, qui a introduit donc la scolarisation obligatoire de tous les enfants handicapés ou en très grande difficulté dans les écoles ordinaires, que ce soit donc les fameux stages pendant les vacances, et maintenant donc ces 60 heures de soutien qui vont être destinées aux élèves en difficulté. Pourquoi ce n'est pas une progression ? Parce que jusqu'à présent, dans l'éducation nationale, il y avait une loi qui était la loi Lenoir de 1975, qui permettait à chaque enfant handicapé d'être accueilli dans des structures spécialisées et d'avoir à sa disposition tout ce qu'il lui fallait au niveau donc de l'éducation et de traitement de sa difficulté. Il y avait donc des RASED, des réseaux d'aide qui existent toujours par ailleurs, donc qui comportent un psychologue scolaire, un rééducateur et un maître d'adaptation. Il y avait donc, dans l'éducation nationale, des maîtres spécialisés chargés de la difficulté scolaire. Et aujourd'hui, on veut, pour des raisons de notre point de vue strictement budgétaire, faire passer le traitement de la difficulté scolaire prise en charge par les maîtres, entre guillemets, ordinaires, qui n'ont aucune formation spécialisée.
Est-ce qu'on peut dire que, de toute façon, l'égalité des chances, elle est remise en question dans ce sens-là ?
Alors, l'égalité des chances, en tout cas l'égalité de traitement de tous les élèves de ce pays est remise en cause, parce qu'effectivement un élève en difficulté n'aura plus ce qu'il avait par ailleurs. On peut rappeler quand même que nous estimons que ça part de la nécessité de réduire les déficits publics, ce qui a été annoncé par le ministre. Un enfant qui est scolarisé dans une école ordinaire revient à 500 euros par mois. Un enfant qui est scolarisé dans une école spécialisée revient à 1500 euros par mois. Mmh. Et comme aujourd'hui il est question de diminuer le nombre d'enseignants et diminuer le coût des déficit public, puisque l'Europe demande donc de diminuer les déficits publics, c'est un très bon moyen de diminuer les déficits publics. Ça, je crois que c'est important de le dire. Et ensuite, ces enfants, on voit dans les écoles des enfants qui ont des très grosses difficultés, qui sont autistes ou qui ont des grosses difficultés comportementales ou qui sont handicapés. Le handicap physique, ça se traite, mais le handicap lié plus à un comportement, ils sont aujourd'hui pratiquement abandonnés dans les classes. Et on ne leur donne plus ce à quoi ils ont droit, ce à quoi ils avaient droit. On avait un échange, parce que les enfants qui étaient intégrés dans ces établissements spécialisés pouvaient, si c'était possible, aller passer du temps dans les classes ordinaires. Mais ils avaient donc ce soutien et ces soins tout à fait adaptés à leur handicap. Ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui.
En gros, ces nouvelles mesures reviennent à donner moins à ceux qui en ont le plus besoin, en fait.
En quelque sorte, alors que le discours est inverse, bien évidemment. Je voulais dire aussi, indépendamment du traitement de cette difficulté scolaire, en quoi la contre-réforme d'Arcos pour le SNUDI force ouvrière remet en cause l'égalité, c'est que donc elle prévoit d'abord, les élèves vont avoir déjà 2 heures d'enseignement en moins. Hein, on pourra donc évoquer ce problème aussi. Et les enseignants, eux par contre, n'ont pas de semaine à 4 jours. Pour les enseignants, ce n'est pas ça du tout. Puisque nous allons passer de 36 heures annualisées à 108 heures annualisées. L'objectif étant de flexibiliser au maximum notre enseignement et de diminuer le nombre de postes. Puisque l'an prochain, cette année, il y a eu 11 200 postes en moins. L'année prochaine, 13 500.
On diminue le nombre d'effectifs et on augmente les heures de travail des enseignants, c'est ça ?
On ne les augmente pas, on les organise différemment. Et ces 108 heures annualisées, il y en a 60 qui vont concerner les élèves en difficulté. Et les 48 autres pourront être placés n'importe où. Le mercredi, le samedi, le soir. Et ces enseignants sont maintenant soumis à l'avis du conseil d'école et ils sont soumis à des pressions locales. C'est en ce sens que l'égalité du service public d'enseignement est remis en cause. Nous ne sommes pas les employés des conseils des mairies ni des conseils d'école.
Alors, si j'ai bien compris, on liquide l'enseignement spécialisé avec une présence éducative, d'éducateurs, de psy, de psychologues, etc.
Alors, ils existent toujours. Hein, ces personnels existent toujours, mais alors je pourrais vous donner des chiffres pour montrer comment ils ont diminué donc, dans le temps, si je retrouve mes petites notes. Depuis 1984, il y a eu 14 064 de ces postes qui ont été supprimés. Alors on nous dit, le ministère n'explique pas ça, il dit que c'est complémentaire, mais en même temps il fait des déclarations dans lesquelles il dit « Le rythme de diminution des effectifs de l'éducation nationale sera fonction des progrès réalisés dans la mise à plat des programmes et des rythmes scolaires qui est nécessaire à l'équilibre de nos efforts ». Et ensuite il explique que toutes ces structures vont d'autant faudra modifier les tâches de ces maîtres spécialisés et que ça sera source d'économie. Les déclarations sont très claires.
Pourtant, on nous dit que bon, il va y avoir des stages de remise à niveau qui vont être donnés, qui vont être reconduits comme les stages de remise à niveau qui ont été faits pendant les vacances de Pâques. Donc, ça va se déjà la première semaine de juillet, aussi fin semaine d'août. Donc, est-ce que ça, c'est pas un point positif? Et aussi, on nous parle aussi du livret d'évaluation qui sera mis en place à la rentrée et qui suivra l'élève pendant toute sa scolarité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ou est-ce que ça va juste à côté de la plaque, en quelque sorte?
Mais le problème, c'est que c'est à la place de... D'abord, on diminue 2 heures d'enseignement pour tous les élèves. Ces élèves en difficulté vont avoir, par des maîtres ordinaires qui ne sont pas formés pour traiter la difficulté scolaire, vont avoir d'abord ces 2 heures, ces 60 heures réparties sur l'année, où ils vont être pris entre midi et 2 à la place de récréation pour les faire travailler, et pendant les stages de remise à niveau. Mais on est obligé de mettre ça en relation avec la diminution de l'enseignement spécialisé dans le cadre de l'éducation nationale, avec le fait que, les maîtres, de plus en plus des maîtres absents ne sont pas remplacés. Donnons déjà aux élèves le nombre d'heures auxquelles ils ont droit. Mettons en place suffisamment de maîtres spécialisés qui puissent prendre, avec leur spécificité, la difficulté scolaire, plutôt que de supprimer ça et de mettre en place des pansements sur une jambe de bois, puisque ce sont des maîtres qui vont s'occuper des enfants sans qualification particulière.
Par rapport à la réforme sur les programmes, il y aura, les programmes vont être simplifiés et être alourdis. On va plus chercher à faire réfléchir en quelque sorte les élèves sur les comportements, mais on va leur faire appliquer des règles sans qu'ils les comprennent. Est-ce que c'est...
Alors, le problème pour et faux pour le SNUDI Force Ouvrière, et je pourrais reprendre ce qu'on a expliqué, donc ce que la Confédération, la prise de position de la Confédération sur cette question et la bataille que nous avons menée, nous, dans le syndicat et faux du premier degré. Premier point, c'est qu'il y a des spécialistes qui se penchent sur la rédaction des programmes. En aucun cas, un syndicat n'est habilité pour juger de la véracité ou non de programmes. C'est comme si, dans une entreprise de métallurgie, on demandait au syndicat de se prononcer sur la couleur des voitures ou sur la force des pneus. Donc, le syndicat, ce n'est pas son travail. Nous laissons donc aux ministres, aux associations et aux groupes d'experts la réflexion sur la modification de ces programmes, les changements positifs ou non. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, ces programmes, ça dépasse la question de programme, puisque sa présentation et sa préambule fait référence à la formation tout au long de la vie et au socle commun des connaissances et des compétences qui est donc le leitmotiv de l'Europe. Et nous, nous ne sommes pas pour une formation tout au long de la vie. Nous sommes pour une formation initiale qui permette à chaque enfant de ce pays d'avoir une base permettant donc de comprendre et d'être formé. Et en particulier, on défend beaucoup l'enseignement professionnel qui aujourd'hui est bien mis à mal. Et nous sommes pour la formation continue tout au long de la vie, c'est-à-dire le droit, etc., qui est d'ailleurs remis en cause aujourd'hui. Mais la formation tout au long de la vie et le socle commun de connaissances, c'est le SMIC au niveau des connaissances. Et donc de ce point de vue, on ne peut pas, c'est de ce point de vue qu'on a pris position. Peut-on avoir une plus grande ambition si on allège les programmes, si on diminue 2 heures de cours, si on enlève les enseignements spécialisés? Et le danger avec les 108 heures annualisées, avec le fait qu'il faut absolument diminuer un nombre d'enseignants, c'est qu'on retrouve un petit peu ce qu'expliquait M. Allègre et sa charte, c'est-à-dire qu'il y aurait un socle de fondamentaux, maths, français, et que le reste pourrait passer dans le cadre d'activités prises en place par les municipalités, par des associations. Et ça, nous le craignons. Parce que ça, effectivement, en fonction des politiques locales, en fonction des... C'est une remise en cause de l'égalité, et tout est important dans la formation jeunes élèves.
Oui, d'autant plus que les programmes de 2002 n'ont pas... Il n'y a eu aucune évaluation qui était faite là-dessus pour voir si vraiment ils ne répondaient pas aux besoins. Donc on met en place de nouveaux programmes sans vraiment savoir si... ce qu'a donné, c'est des programmes qui sont anciens, c'est-à-dire ceux de 2002.
Absolument.
Voilà.
Et nous avions d'ailleurs dit, bon, il y a eu les programmes de 2002, et tous les ans, après, il y a eu, donc, à partir de 2006, une avalanche, choix pédagogique de Derobien, 2006-2007, socle commun, été 2007, publication d'un programme spécial. Tous les ans, les enseignants sont obligés, donc, de remettre en cause, de s'adapter, et nous sommes aussi très, très attachés à la liberté pédagogique des enseignants.
Et pour revenir à la carte scolaire, alors, l'assouplissement de la carte scolaire, qu'est-ce que ça a donné? Quels ont été les effets, justement, de ces différentes formes d'assouplissement de carte scolaire qui ont été faites déjà dans le temps, mais qui ont été encore prolongées par le président Sarkozy? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a vu une répartition des élèves en fonction de l'habitat? Est-ce que ça a favorisé le public ou ça a défavorisé? Ou est-ce que le privé a tiré bénéfice de cela, en quelque sorte?
Alors, bon, une analyse... Alors... D'après l'administration, puisqu'on a eu donc des réunions, selon eux, ça n'a pas modifié terriblement les choses. Je pense que ça a eu des conséquences plus importantes dans le secondaire que dans le primaire. Et donc, je maîtrise beaucoup moins la question du secondaire que la question du primaire, puisque là, effectivement, ça a permis donc d'assouplir les dérogations pour pouvoir aller dans le lycée de son choix ou le collège de son choix. Et à mon avis, en aucun cas, ça ne peut aider à ce qu'on appelle, enfin, ce que l'administration et l'État appellent la mixité sociale. La seule manière, de toute façon, d'améliorer, c'est de donner des moyens, qu'il y ait suffisamment de surveillants, qu'il y ait suffisamment de professeurs, qu'on les laisse faire leur matière, celle pour laquelle ils ont été formés. Et dans le secondaire, il y a aussi tout un tas de contre-réformes qui ne vont pas du tout, du point de vue de Force ouvrière, dans le sens d'une amélioration.
Donc l'éducation nationale va perdre à peu près 20 000 de ses enseignants, si on fait le bilan total entre les mises à la retraite qui ne sont pas remplacées, le personnel qui va être pris. Donc comment va évoluer une éducation avec 20 000 personnes en moins, c'est-à-dire avec 20 000 enseignants en moins? Comment peut évoluer l'éducation nationale? Dans quel sens
Elle va évoluer déjà avec une augmentation du nombre d'élèves par classe. Et pour diminuer le nombre d'enseignants, et l'objectif c'est effectivement un départ à la retraite non remplacé, il me semble. Eh bien, on augmente le nombre d'élèves par classe. Et ensuite, donc, l'objectif de M. Sarkozy et de Darcos, du ministre, c'est un petit peu de mettre les feux sur tous les enseignants qui ne sont pas devant une classe. Donc, les enseignements spécialisés, les formateurs, etc. Et donc, c'est aussi par ce biais-là que l'on va diminuer. Il y a deux aspects. Il y a diminuer le nombre d'enseignants et diminuer le coût. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de... Et cette histoire de programme et la possibilité de remplacer certains enseignements par des activités qui seront mises en place avec l'accord d'associations de communes, ça aussi, c'est un moyen d'abord de diminuer le nombre d'enseignants et pour l'État de se décharger sur les collectivités territoriales.
Est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années par rapport à leurs conditions de travail? Et si ces réformes passent, que deviendront leurs conditions de travail?
Alors, il y a eu, du point de vue donc de toujours du SNUDI Force Ouvrière, parce que nous ne sommes pas forcément en accord avec nos collègues des autres syndicats, qui sont, eux, très attachés à une amélioration de l'école qui passe par, et qui correspond un petit peu, puisqu'ils ont quand même signé hein, le relevé de décision de Darcos, et tout est quand même parti de la signature d'un relevé de certains syndicats avec le ministère, puisqu'au départ, le SNUPP et la CFDT l'avaient signé, ils ont été ensuite rejoints par l'UNSA. Alors après, bon, il n'y en a que deux qui ont signé le décret, qui ont signé donc le rapport.
Et quel était le contenu du coup, pourquoi ils ont signé et en quoi ils étaient
Eh bien, ils ont signé ce décret d'Arcos, c'est ce qui met en place les 2 heures de moins donc, pour tous les élèves, les 108 heures annualisées, les 60 heures de soutien, et ils sont entrés dans une discussion avec le ministère sur comment utiliser au mieux ces 60 heures pour les élèves. Et ils ont invité les enseignants à discuter de ça. Alors que nous expliquions que on n'est pas des co-gestionnaires. On ne peut pas gérer avec l'administration, d'autant plus quand ça va à l'encontre de nos intérêts. Pourquoi ça va dégrader les conditions de travail des enseignants? D'abord parce que ça remet en cause... D'abord, on n'a pas la semaine des 4 jours. Nous, on va travailler et avec... On va travailler des mères... Il y a 17 demi-journées qui vont être mises en place en plus des 4 jours d'enseignement. Puisqu'on sépare, donc on aura 24 heures d'enseignement et 108 heures annualisées. Sur ces 108 heures, 60 heures pour le soutien aux élèves en difficultés. Ces élèves, ils vont être pris en charge pour la plupart dans la pause méridienne. Ça veut dire que nous allons commencer le matin, on va prendre les élèves en difficulté entre midi et deux et on va finir le soir. Donc plus de pause entre midi et deux, des journées extrêmement longues. Ensuite, on aura des réunions le mercredi ou le samedi. Donc on va, et puis, cette prise en charge des élèves en difficulté, ça se prépare, ça s'évalue. Donc ça veut dire qu'on en demande de plus en plus aux enseignants. On leur demande de plus en plus de se réunir, de discuter, de faire des projets. Tout doit être justifié, tout doit être écrit, on doit faire des projets sur tout. Et ensuite, on va être évalué, y compris en fonction du résultat de nos élèves. Donc il y a vraiment une dégradation au niveau de ce qui faisait le socle de notre statut. C'est en ce sens que notre statut est remis en cause.
Donc la semaine des 4 jours, c'est une mauvaise idée, alors d'après vous?
C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que c'est pas une réalité.
C'est pas
pour
une
les
réalité.
Enseignants, ce n'est pas une réalité.
Sauf pour les élèves. Les élèves, oui, mais pour les enseignants, c'est pas une réalité, parce qu'eux feront bien plus que 4 jours de travail dans la semaine.
Bien plus, et les élèves en difficulté aussi.
Oui, en plus, il me semble que de toute façon, l'enseignant, il prépare ses cours en dehors du cadre de
Absolument.
Son travail.
Donc là, ça
ne
veut dire
pas en compte.
Ah non, pas du tout. Ça, ce n'est pas compté dans nos horaires, dans nos obligations de service. Et là, il y a une modification, de notre point de vue, importante de nos modifications de nos obligations de service, pardon, avec une plus grande flexibilité. Et c'est cette flexibilité qui va faire effectivement qu'on va pouvoir nous demander de travailler le mercredi, le samedi, pendant les vacances. La formation continue qui jusqu'à présent était pendant le temps de travail pourra éventuellement passer en dehors donc du temps d'enseignement. Donc il y a vraiment une remise en cause assez importante de notre statut.
Et est-ce que ce que vous venez de nous expliquer, il y aura une réelle perte d'indépendance du travail de l'enseignant?
Alors, de notre point de vue, il y a deux aspects. Il y a d'abord qu'il y a une, et ça, les collègues des autres syndicats sont très pour, c'est qu'on est vraiment dans la nécessité, l'obligation de travailler ensemble, de faire des projets communs, de se réunir en permanence pour établir. Or, on ne peut travailler correctement ensemble que, bon, c'est un choix. On n'est pas forcément... Et ça remet un petit peu en cause la liberté pédagogique de l'enseignant. L'obligation de faire des PPRE, par exemple, ça veut dire qu'on lui indique comment il doit travailler avec ses élèves en difficulté. Donc, il y a une diminution de plus en plus de la liberté pédagogique individuelle. Et il y a aussi une perte de l'indépendance professionnelle, puisque on va être le projet d'école va être, et en particulier le travail avec les élèves en difficulté, est soumis au conseil d'école. Et il y a un certain nombre de maires, par exemple, maintenant, qui se permettent de convoquer des directeurs d'école pour leur faire des propositions. Il y a des maires qui ont fait des enquêtes auprès des parents d'élèves sur comment ça intéresserait les parents d'élèves que soient organisées les 60 heures. Ça veut dire qu'on perd cette indépendance qui était pour nous importante parce que c'était partie intégrante de notre statut, mais qui est aussi qui fait perdre aussi l'indépendance du fonctionnaire d'État était aussi garante de l'égalité de traitement de tous les élèves de ce pays. Donc c'est vraiment une remise en cause de l'égalité pour nous, bien évidemment, dans l'école de la République.
Alors juste on va bientôt terminer. Alors j'ai une question par rapport au statut du fonctionnaire. Est-ce que dans tout ça, le statut de fonctionnaire est remis en cause?
bien évidemment, puisque c'est tout, enfin, le premier qui a parlé donc du carcan des statuts qu'il fallait ouvrir. C'est le président de la République, hein, dès septembre. Donc le statut, c'est vraiment, et il est aujourd'hui. Alors si on dépasse donc l'éducation nationale et si on voit toutes les réformes qui sont mises en place au niveau de la fonction publique, c'est vrai qu'il y a une remise en cause du statut. En particulier le fait donc de la question du salaire, qui serait un salaire au mérite, puisqu'on aurait une partie donc qui serait encore liée à notre indice, mais une autre partie qui serait liée à l'endroit où on enseigne et une partie qui serait liée aux résultats de nos élèves. Il y a par exemple la mise en place de le fait que notre diplôme ne donnerait plus forcément un emploi, c'est-à-dire que eh bien, on irait comme en Angleterre frapper à la porte pour se faire embaucher. La mise en place d'un pool de remplacement dans lequel le gouvernement irait piocher.
Comme
donc c'est la précarisation complète. Alors, il y a des aspects qui il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect perte de l'indépendance vis-à-vis des politiques locales. Et donc, on ne serait plus fonctionnaire d'État indépendant, garant du service public d'enseignement. Et d'ailleurs, l'Europe ne part plus de service public, mais de services d'intérêt généraux. Et l'éducation nationale en fait partie.
C'est-à-dire, quand on dit services d'intérêt généraux, c'est-à-dire
ça veut dire que ce sont des services qui peuvent faire appel à... qui sont un mixte entre le privé et le public. Et le public n'a plus... je veux dire, c'est plus lui qui est maître. Et donc, c'est bien pour ça qu'on pourrait avoir des associations et des mairies qui pourraient intervenir dans l'école et qui seraient partie prenante de l'enseignement.
Et en gros, on mettra en place une forme d'intérim, en fait.
Pour les enseignants, oui, ce serait donc un pool d'enseignants dans lequel les établissements... on met en place des établissements autonomes, les EPEP dont je parlais tout à l'heure, avec un conseil, un conseil d'administration dans lequel il y a des politiques. Et le conseil d'administration emploie donc ces enseignants. Et il va pour cela donc dans un pool d'enseignants qui ont tous le diplôme mais qui n'auront plus forcément d'emploi. Et on pourra nous licencier.
Et pour terminer, là, on va revenir sur une actualité qui vient de tomber. Là, on a appris que la grande distribution, en accord avec le ministère avec Monsieur Darcos, a mis en place une liste à 40 euros, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour les fournitures scolaires, que les grandes distributions s'engageaient à ne pas dépasser, en gros, pour tout ce qui convient aux élèves dans leurs besoins de travail pour l'année, une liste qui ferait à peu près 40 euros, de façon que tout le monde puisse accéder à des prix raisonnables à ces fournitures scolaires. Donc, quel est votre aperçu sur cette...
D'abord, je découvre, c'est vous qui me le faites découvrir.
C'est un scoop, peut-être.
C'est un scoop pour moi. Et puis, en plus, je ne vois pas comment les supermarchés pourraient définir les besoins des enseignants, puisque c'est, enfin, des élèves à l'école. Donc là, je ne vois pas comment... Alors, modérer les prix, tant mieux. On peut dire que tant mieux. Maintenant, moi, je pense que dans une école gratuite, eh bien, l'école devrait donner l'ensemble du matériel scolaire et des fournitures scolaires à tous les élèves de ce pays et qu'on n'aurait pas à négocier avec les grandes surfaces.
Et alors, par rapport au logiciel base élève du premier degré, où est-ce que vous en êtes ? Enfin, on va expliquer rapidement ce que c'est. C'est un logiciel qui a été mis en place, enfin, qui a été proposé par Darcos pour... Enfin, moi, je l'appelle ça comme un système de fichage des élèves dans la société française et qui enquête sur les difficultés de la scolarité des enfants, qui enquête sur tout un ensemble de choses, qui prennent des informations sur tout un ensemble des choses, y compris les métiers des parents, l'origine des parents, y compris quoi d'autre, le suivi médical des parents. Enfin, comment est-ce que, enfin, vous pouvez nous expliquer l'évolution et vous me dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça.
D'abord, si j'ai deux petites minutes, la position donc du SUNY Force Ouvrière et de la Confédération Force Ouvrière par rapport à base élève, il y avait donc une opposition sur trois points. Celle que vous venez de définir, donc un dispositif de fichage national et partageable, IA mairie, qui était valable 15 ans au départ, avec donc la possibilité de croiser avec le fichier CAF pour priver les familles d'élèves d'absentéisme, etc. L'autre point important, c'est que c'était un outil de la LOLF pour pouvoir gérer au plus juste la carte scolaire et savoir exactement à quel moment, donc à chaque moment combien il y avait d'élèves et donc une possibilité de supprimer le maximum de classes pour faire des économies, et un outil pour mettre en place les EPEP et les contrats d'objectifs. Donc c'était sur ces trois points, nous, que nous nous opposions à base élève. Par rapport à la mobilisation qui a eu lieu, donc il y a un certain nombre de champs qui ont été enlevés hein, du logiciel, en particulier donc tout ce qui était tout ce qui concernait l'origine des familles. Il n'empêche qu'il reste, et puis je crois que le logiciel ne sera plus valable maintenant que pour la scolarité primaire des élèves, donc plus 15 ans. Donc il y a un certain nombre de reculs qui ont été obtenus. Il n'empêche que ce qu'on a enlevé, on peut l'ajouter, que c'est un logiciel qui reste en place, que toute la question de la gestion au plus juste et pour faire des économies de la carte scolaire perdure, et qu'aujourd'hui, donc on a, nous, sur le département, mis en place donc une bataille relativement unitaire sur cette question, et qu'on a eu réponse, on a été reçu donc par...
Le recteur ?
Non, c'était un représentant de l'inspection académique, mais un administratif, et que le monsieur l'inspecteur d'académie nous a répondu après, et donc à certains syndicats qui étaient dans cette initiative. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, on n'est plus dans une phase expérimentale, qu'on est dans une phase de généralisation. Et là, bon, on a une contradiction entre notre appréciation et la sienne, puisque nous, on pense donc qu'on n'est pas encore dans une phase de généralisation. Et donc, de manière tout à fait autoritaire, il a imposé les stages pour tous les directeurs d'école. Donc, pour lui, et je pense qu'on est un département pilote dans la mise en place de ce logiciel bas élèves.
Qui se mettra en place à la rentrée 2008.
Oui, et en tout cas, il faudrait que dans le courant de l'année 2008-2009, l'ensemble des directeurs du département soient formés pour pouvoir utiliser le logiciel.
Donc, ce logiciel-là n'a pas été du tout retiré par l'Éducation nationale.
Donc, il n'est pas retiré. Il y a des champs qui ont été enlevés. Et je pense que maintenant, la bataille se mène au niveau national, au niveau du ministère, parce que, bien évidemment, ce n'est pas dans un département qu'on peut régler le problème d'un logiciel national, même si on a décidé de se revoir à la rentrée pour voir comment on va se disposer par rapport à ça.
Et ce logiciel-là restera partageable par d'autres ministères, par le CNIL, enfin, ce sera un...
Oui, tout à fait. Bien surtout, il y a, quand on travaille avec des élèves, et en particulier quand on prend des élèves en difficulté, il y a une confidentialité. Parce qu'on travaille à un moment donné avec un élève qui est en difficulté, on règle la difficulté, et puis c'est terminé. Alors que là, tout va être gardé donc dans ce logiciel et qui pourra être consultable.
Très bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que tu as une question à poser, Christian ?
Que tout a été dit clairement et brillamment par notre interlocutrice. Donc,
Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Martine ?
Moi, pour conclure, je pense qu'il faudrait dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans ce que nous venons de dire, c'est que parallèlement à toutes ces contre-réformes, il y a quand même quelque chose qui est fondamental et contre lequel nous combattons, c'est que pour y arriver, il faut intégrer les syndicats. Intégrer les syndicats, ça veut dire remettre en cause leur indépendance. Et ça, c'est un point qui, pour Force ouvrière, est extrêmement important. Le rôle du syndicat, ce n'est pas de co-gérer au mieux avec l'administration, c'est de se situer sur le terrain des revendications des personnels. Et c'est pour ça que nous n'avons signé aucun texte avec le ministère. On regarde les textes du ministère, on les lit, on les analyse, on en rend compte et on mène les actions nécessaires s'il nous semble contraire aux intérêts des salariés, ce qui est pour nous le cas.
Une petite parenthèse, la remise en cause des 35 heures, est-ce que ça peut toucher les enseignants ?
Alors, on a le pendant, hein. Il y a eu donc ce rapport, je ne sais plus comment ça s'appelle, la position commune qui a été signée donc par la CGT, la CFDT et le MEDEF et qui permet aujourd'hui donc au gouvernement, grâce à l'article 17, hein, puisqu'elle remet en cause la hiérarchie des normes, ça veut dire qu'il peut y avoir dans les entreprises des accords qui soient inférieurs donc à ce qu'était le code du travail, ce qui était une force au niveau de l'acquis donc du syndicalisme. Et là aujourd'hui, donc et on a un bel exemple justement de non-indépendance et de co-gestion, de co-législation. Parce que à partir de cette position commune, eh ben, le gouvernement va beaucoup plus loin et remet en cause donc toute la question des heures supplémentaires et du temps de travail. Et on a un petit peu le pendant sous une autre forme dans la fonction publique, mais avec une remise en cause des syndicats qui seraient représentatifs et qui pourraient négocier.
Très bien, on vous remercie, Martine, et puis on se reverra certainement à la rentrée.
Merci à vous, en tout cas.
Et bonne continuation pour vous et pour votre syndicat.
Merci beaucoup.
Et bonne rentrée.